Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote ! Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Ainsi parlait le feu sacré. Nous voici plusieurs siècles avant notre ère en Perse, l'Iran actuel. Des temples du feu, le culte du feu, le zoroastrisme est une religion qui ne s'est jamais éteinte, dont le prophète Zoroastre droit beaucoup au philosophe Nietzsche à la fin du 19e siècle. Nietzsche qui a offert une notoriété particulière en Occident avec le livre Ainsi parlait Zarathoustra. Mais oui, pourquoi le feu? Quel symbolique zoroastrisme? La religion perce les flammes.
Tout le monde connaît le titre de l'œuvre centrale du prophète de notre temps, Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.
Au moment où le matin du temps répandit la lumière, le bienheureux Zarathoustra vint au monde. Il riait en quittant le sein de sa mère, et de son rire, le palais fut empli de lumière.
Zoroastre, ou en grec Zarathoustra.
Ainsi parlait Zarathoustra, Richard Strauss, évidemment, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Tout de suite, cette musique évoque un univers particulier qui nous conduit loin dans l'avenir peut-être, mais surtout dans le passé. Bonjour Samra Azarnouch.
Bonjour.
Dites-nous, culte du feu, est-ce que c'est une expression qui peut être utilisée pour parler du zoroastrisme ?
D'une certaine manière, oui, ça peut être le cas. D'ailleurs, les observateurs du zoroastrisme à toutes les époques ont appelé les zoroastriens les adorateurs du feu. Évidemment, ce ne sont pas littéralement des adorateurs du feu, puisque le feu est à la fois l'objet et le moyen de leur culte.
Oui, parce qu'il y a un côté un petit peu, culte païen d'adoration d'une idole que serait le feu. C'est pas du tout comme ça qu'il faut concevoir le zoroastrisme.
Pas du tout. Le feu n'est absolument pas une idole. Et d'ailleurs, quand on leur faisait la remarque des musulmans ou des chrétiens, justement, les critiquaient pour cette pseudo-idolâtrie, les zoroastriens répondaient en disant « Oui, mais vous avez des mosquées, vous avez des églises, vous avez votre croix. » Ben, c'est la même chose pour nous. C'est le même rôle que tient le feu au sein des temples pour le rituel sacré du zoroastrisme.
Avec une chronologie à mettre en place, on l'a évoqué, hein, ce prophète, alors Zoroastre ou Zarathoustra, c'est un personnage qui a existé. Est-ce qu'il y a une historicité de cet homme ?
Alors, c'est une question qui est largement débattue. D'abord, commençons par son nom. Son nom véritable, dans les textes les plus anciens qui nous sont parvenus, c'est-à-dire les textes de l'Avesta, son nom est Zarathoustra. Zarathoustra signifie « celui qui possède de vieux chameaux », ce qui n'est pas du tout un nom ridicule, au contraire, c'est un nom aristocratique dans la tradition agro-pastorale des civilisations anciennes d'Asie centrale. Les Grecs qui ont eu connaissance de ce nom l'ont transformé en Zoroastre, nom dans lequel ils ont reconnu le mot « astre », « astron » en grec. Et donc Zoroastre est devenu un astrologue, un visionnaire, un philosophe aussi, qui est lié à la lumière et aux étoiles.
Alors moi, je vais reprendre les conceptions que nous avons bien souvent des religions, souvent basées sur le monothéisme. Et puis, Samra Azarnouch, vous allez pouvoir corriger tout ça. Donc, on parle d'un prophète ici. Est-ce que la notion de prophète correspond avec cet homme ? D'ailleurs, une datation, on saurait à peu près à quel moment il aurait agi et pensé ?
Non. La seule source qui nous parle de lui est un texte extrêmement ancien qu'on appelle les Gatha. C'est une partie de l'Avesta qui est écrite dans une langue qui devait être la langue des populations autour de 1000 avant notre ère. C'est le seul texte qui nous parle de Zarathoustra, le plus ancien, on n'en a pas d'autre. Donc, disons que ce n'est pas une preuve véritable pour parler d'un personnage historique, mais en tout cas d'une personnalité, d'une figure fondatrice, d'une pensée et surtout d'un culte. Ce que fait Zarathoustra dans ce texte, c'est qu'il a un entretien, une conversation avec son dieu Ahura Mazda, et à travers cet entretien, le dieu lui confère un message et surtout la manière de célébrer un culte qui est celui du feu. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et on sait qu'il appartient à un clan, il a une famille, il a un père, il a des enfants. Ces enfants sont très importants parce que ce sont les sauveurs futurs, puisque le zoroastrisme est aussi une religion messianique. Mais bon, alors prophète, disons que c'est avant tout un chantre, un incantateur, un personnage inspiré, un mage également, puisqu'il va faire un rituel, il va conduire un rituel, que vont suivre les hommes après lui, que suivent encore les prêtres zoroastriens aujourd'hui en le prenant pour modèle. Mais prophète, disons qu'il est devenu, d'une certaine manière, on l'a transformé en prophète pour être compatible avec les religions monothéismes qui avaient un prophète, qui avaient un livre. Donc finalement, ce qui est intéressant aussi dans le zoroastrisme, c'est cette évolution-là, c'est qu'elle s'adapte, elle adopte des figures, des paradigmes de son environnement, des religions qu'elle côtoie pour se transformer et entrer dans la modernité, entrer dans son temps.
Religion du livre, parce qu'on le cite, vous l'avez cité, ce livre, l'Avesta. Alors, c'est un ouvrage, est-ce que c'est comparable au grand livre des monothéismes ?
Non, l'Avesta n'est pas une Bible, n'est pas un Coran. À l'origine, disons que c'est un texte liturgique, c'est un récitatif liturgique qui permettait à ces populations anciennes, entre 1000 avant notre ère et début du premier millénaire avant notre ère, de conduire un rituel. Donc c'est un texte qui, ce sont des incantations, des poèmes, on peut dire, qui accompagnent des gestes rituels. Et ces différentes liturgies ont été assemblées sous cette forme-là, ont été éditées, mais techniquement ce n'est pas un livre. L'Avesta est devenu un livre pendant l'Antiquité tardive, autour du 6e siècle de notre ère, où un jour on a décidé de le mettre par écrit. Et c'est là qu'est née l'Avesta en tant que livre.
Samra Azarnouch, vous êtes maîtresse de conférence à l'École pratique des hautes études. Et dans cette réflexion que vous menez également avec vos travaux dans le cadre du CNRS autour de cette religion, vous avez ici la chronologie, vous le mettez en place tout de suite, cet élément essentiel de compréhension, cette évolution avec 1000 avant notre ère pour la datation de la langue utilisée dans ces textes. Très bien. C'est important de le souligner parce que c'est-à-dire que nous sommes 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est la période, malgré tout, dans le judaïsme des grands prophètes.
En effet, mais disons que c'est difficile de situer dans l'espace également cette religion. Donc nous avons une langue. Tout démarre avec la vision des linguistes sur ces textes. Nous avons une langue qu'on appelle l'avestique, qui est donc parlée, utilisée dans un rituel en 1000 avant notre ère. Et cette langue appartient à l'Est iranien, probablement au nord de l'Afghanistan et au piémont du Pamir. Puis ces textes migrent vers le plateau iranien, pendant cette période qu'on appelle la période achéménide, autour, disons, de 600 avant notre ère, et les institutions qui portent ce texte sacré s'implantent dans l'Iran. C'est à ce moment-là que l'Avesta devient iranien ou perse. À partir de là, le culte se propage et l'Avesta est surtout transmis de manière orale, traverse les temps, jusqu'à l'époque tardo-antique, jusqu'au 3e siècle de notre ère, où là, une transformation, une révolution pour cette religion qui devient une religion d'État, avec la dynastie perse des Sassanides. À ce moment-là, on a une nouvelle figuration de la religion qui devient un moyen théologico-politique pour porter un empire, pour l'unifier. C'est un élément qui va être l'unificateur d'un système administratif, politique, et qui va être vraiment la base théologique d'une pensée impériale. Finalement, le zoroastrisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est l'héritier de ce zoroastrisme-là, de l'époque sassanide, de l'époque tardo-antique.
Avec ce premier zoroastrisme, avant qu'il devienne une religion d'État, on l'entend bien, mais là on est quoi, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ
Au moment où l'Empire sassanide arrive, on est au 3e siècle.
Au 3e siècle, et la mise par écrit
La mise par écrit, c'est quelques siècles après. Ouais. Les raisons de la mise par écrit sont difficiles à évaluer, mais on pense aussi à des religions environnantes, comme le manichéisme, qui est une religion qui écrit beaucoup. Bien sûr, il y a la Bible qui existe, et donc, à ce moment-là, on pense que les zoroastriens ont ressenti le besoin de mettre ce texte par écrit, mais pas spécifiquement pour avoir un livre, mais pour aussi codifier la prononciation liturgique. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va inventer une écriture.
Pourquoi ?
parce que l'écriture qu'utilisent les Perses à cette époque, qui parlent une langue qu'on appelle le moyen perse ou le pelvi, cette écriture, qui est un dérivé de l'araméen, n'emploie que 12 caractères, entre 12 et 14 caractères. C'est très insuffisant pour mettre par écrit une langue précise, une liturgie avec énormément de variations phonétiques, qu'il faut absolument respecter. Si on ne prononce pas la liturgie avestique avec toutes les variations phonétiques et la précision qu'elle requiert, le rituel est invalide. Les dieux n'acceptent pas ce rituel. Donc il faut inventer une écriture particulièrement précise, avec 59 caractères, pour mettre toutes ces variations phonétiques par écrit avec une grande précision.
Eh oui, c'est ça qui permet de mettre par écrit, c'est l'invention d'une langue, on peut le concevoir ainsi?
Non, c'est pas l'invention d'une langue, c'est la mise par écrit, la conservation d'une prononciation particulière. C'est même pas une langue à ce moment-là, c'est une langue morte. Mais on sacralise, on canonise une prononciation liturgique. Sous cette forme-là.
Ouais, on a toujours besoin de linguistes.
Dans sa forme initiale, la religion mazdienne enseignait le culte d'un seul dieu, Ahura Mazda, celui-là même dont les rois perses proclament la suprématie. Il est, de par son nom, le seigneur sagesse. Ahura Mazda, créateur du monde et dieu du ciel, a organisé l'univers dont il est le souverain absolu. Il s'identifie à la lumière céleste. Autour de lui évolue un groupe de divinités qui sont appelées Yazata, et qui personnifie les grandes forces naturelles et les éléments, feu et eau, soleil et lune, ciel, terre, vent, etc. À ce monde de lumière s'oppose, selon un dualisme caractéristique de l'esprit iranien, un monde du mal, des ténèbres, où règnent les démons, les daïvas. Ici, tout est obscurité, maléfice, puanteur et destruction. Ce monde du mal a un chef, qui est le mauvais esprit, Ahramanyu, devenu Ahriman.
Émile Benveniste, linguiste, qui s'exprimait en 1949 à propos de tous ces dieux du mazdéisme. Le mazdéisme, c'est quoi? C'est Mazda, c'est ce dieu que vous aviez cité, mais c'est pour cela que ce n'est pas simple, et nous on aime bien ce qui n'est pas simple, c'est que le zoroastrisme s'appuie sur une religion qui existait déjà.
En fait, aujourd'hui, on utilise zoroastrisme et mazdéisme comme des synonymes. En réalité, les zoroastriens dès l'Avesta s'appellent eux-mêmes zoroastriens, Zarathustri, c'est-à-dire celui qui célèbre le culte selon Zarathustra. Ils s'appellent également mazdéens, c'est-à-dire mazdayasna dans leur langue, celui qui voue un culte à Mazda, au dieu Ahura Mazda, le seigneur sage. Donc finalement, les deux termes sont des autodésignations et on pourrait les utiliser l'une comme l'autre. Après, dans la recherche, le monde académique a fait un usage différencié de l'un et de l'autre en mettant plutôt l'accent sur le « prophète » entre guillemets Zarathustra ou plutôt sur le dieu Ahura Mazda en fonction des époques notamment. On a parlé d'un mazdéisme achéménide et d'un zoroastrisme sassanide. Bon, aujourd'hui, moi j'ai tendance à les utiliser comme des synonymes pour aller plus vite. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre l'accent sur le monothéisme ou le polythéisme ou le dualisme.
Ah oui, parce que là, on l'a entendu dans l'archive. Y a-t-il un dieu, y a-t-il plein de dieux ou y a-t-il un manichéisme, un dieu du bien, un dieu du mal?
Alors, tous ces termes peuvent s'appliquer au zoroastrisme à des époques données. Et en même temps, on peut dire qu'aucun n'est véritablement descriptif de la religion dans son état réel. D'une manière totalement technique, quand on regarde les textes ou qu'on regarde le calendrier, on a un mois de 30 jours, on a 12 mois de 30 jours avec chaque jour et chaque mois qui est dédié à un dieu. On est dans un bon vieux polythéisme, à la grecque j'ai envie de dire, avec un dieu suprême qui est à la tête d'une hiérarchie divine, à la tête du panthéon. Bon. Par ailleurs, il y a aussi, et notons par ailleurs que le feu est aussi un dieu majeur, à côté de son père, Ahura Mazda, le père des dieux, et en particulier le père du dieu du feu. Donc voilà, on peut appeler ça techniquement un polythéisme. Par ailleurs, on a une pensée dualiste, comme l'a expliqué Benveniste dans ce reportage, où l'on distingue donc le monde du bien, créé par Ahura Mazda, qui s'oppose aux forces délétères, qui est le monde de l'opposant d'Ahura Mazda. Donc c'est ce qu'on peut l'appeler le principe du mal ou le père des démons, Ahramanyu ou Ahriman. Et toutes les créatures de ces deux entités, de ces deux principes, toutes leurs émanations vont se combattre le temps de la création du monde. Donc c'est plutôt un dualisme cosmique où Ahura Mazda s'oppose à Ingramainyu, à d'autres strates du monde créé, le dieu de la pluie, Tishtriya, va s'opposer au démon de la sécheresse. Je descends encore plus bas sur Terre, nous avons le chien, animal sacré, qui s'oppose au loup, etc. etc. Donc c'est un combat cosmique, binaire, entre les entités du bien contre les entités du mal. Évidemment, la lumière contre les ténèbres. Ça, c'est pour le dualisme. Et enfin, parlons aussi du monothéisme, puisque certains auteurs ont, notamment dès le XVIIIe siècle, dès qu'on a commencé à s'intéresser à ces textes de la Perse antique, on a cru voir en Ahura Mazda le seul dieu, et que les autres entités qui l'entourent étaient simplement des allégories et n'avaient pas de personnalité divine. Si vous consultez la plupart des zoroastriens aujourd'hui, que ce soit les zoroastriens en Iran ou les Parsis en Inde, je pense qu'une grande majorité vous dira que le zoroastrisme est une religion monothéiste, pour cette même raison. Parce que, disons, c'est plus consensuel, c'est moins barbare d'être monothéiste que polythéiste. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien d'honteux d'être polythéiste, c'est une religion ancienne qui a perduré, qui a traversé 3 millénaires avec un panthéon fourni et chargé, avec aussi un pandémonium que ces dieux combattent. Et c'est, je pense, la manière la plus simple de définir cette religion, un polythéisme.
Un polythéisme, et sans vouloir appliquer toutes nos représentations des monothéismes, même si, à vous écouter, Samra Azarnouch, on sent bien que, dans la comparaison que l'on peut faire avec le christianisme, c'est vrai qu'il y a là aussi un monde du bien, un monde du mal, hein. Il y a les enfers, il y a tout ce jeu, et que la lecture d'une religion est beaucoup plus complexe qu'une mise sur papier de manière très nette avec un seul mot, monothéisme ou polythéisme.
En effet, et il faut rappeler aussi qu'Ahura Mazda est le seul dieu démiurge. C'est le dieu de la création. C'est celui qui met en place l'agencement du monde grâce à un concept très iranien qui se nomme Asha, c'est-à-dire l'harmonie cosmique, l'agencement cosmique, grâce auquel Ahura Mazda va mettre en place la création. Et cette création matérielle et immatérielle, dans ces deux aspects-là, vont permettre à réduire la domination du mal, à combattre les forces délétères. La création est simplement un outil dans les mains du dieu démiurge pour annihiler le mal, pour le mener à sa perte. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que oui, c'est une forme de monothéisme aussi dans cet aspect-là, si on le regarde de cette perspective.
Avec une interrogation aussi sur ce qu'il y avait avant, parce qu'il y a cette idée de création. Est-ce que le zoroastrisme est une religion qui apparaît de nulle part et qui s'impose? J'en doute. C'est un substrat religieux qui existait auparavant et qui a été transformé?
Oui, c'était un substrat religieux qui était commun à cette population qu'on appelle les Indo-Iraniens. Donc si on part des Indo-Européens, imaginons donc dans un concept linguistique évidemment, mais il y a aussi des populations, on parle d'un peuple Indo-Iranien qui s'est détaché de cette branche des Indo-Européens. Et ces Indo-Iraniens avaient l'élément central de leur culte, c'était le pressurage d'une plante sacrée, qu'on appelle Soma en Inde et Haoma en Iran. Ils avaient également une immolation, c'est-à-dire un sacrifice animal dans le cadre de leur rituel. Et ces populations se sont scindées en deux. Il y a eu d'une part la religion brahmanique, puis le bouddhisme. Et d'un autre côté, il y a eu les Iraniens qui ont mis en avant par rapport à leurs ancêtres le culte du feu. Donc il y a aussi un culte du feu en Inde, mais il n'est pas aussi central qu'en Iran. C'est seulement l'Iran qui a choisi de mettre le feu au centre du rituel, dans un temple, et en faire le vecteur majeur de son rituel.
Avec une explication qui nous est donnée par le grand prêtre du temple du feu.
Ici à Téhéran, nous sommes dans le temple du feu. Il est de forme carrée. Au milieu de cette pièce carrée, dans une sorte de châsse qui remonte jusqu'au plafond, il y a un feu de bois qui brûle continuellement. Rostam Shahzadi, quelle est la signification symbolique de ce maintien perpétuel du feu dans votre temple?
Bien sûr, comme vous le savez, les Aryens ont émigré depuis le nord jusqu'au sud au cours d'une des périodes glaciaires, quand tout le pays était couvert de glace et de neige. Ils ont été forcés de quitter leur patrie appelé Aryana Vaija, ou en sanskrit Aryavarta, et d'aller vers le sud pour rejoindre la lumière, la chaleur, la luminosité. Aussi, dès le commencement, ils conçurent un véritable amour pour le soleil, le feu et tout ce qui donne de la lumière. Et jadis, tous les peuples ariens avaient leur temple du feu, comme les Grecs, les Romains, les Anglo-Saxons, les Germains et toutes les vieilles races ariennes, tous avaient leur feu conservé dans leur temple.
Visite du Temple du Feu en 1976 sur France Culture. Samra Zarnouch, alors cette explication?
Oui, alors il y a deux choses importantes à dire sur cet extrait. C'est que Aryan, évidemment, veut dire iranien. Le mot Aryan existe déjà dans l'Avesta, hein, dans le texte de l'Avesta. Ce sont une population s'installe dans une contrée mythique qui s'appelle Aryanam Vaija, comme le dit le prêtre à l'instant, et cette Aryanam Vaija est devenue l'Iran aujourd'hui. Si l'Iran aujourd'hui s'appelle l'Iran, c'est à cause de cette expression avestique. C'est intéressant de le noter. Cette contrée mythique à laquelle les Iraniens se disent appartenir est donc déjà dans l'Avesta. Ce que je trouve très intéressant dans le discours de ce prêtre, c'est de montrer que le zoroastrisme est finalement une religion comme les autres. On est comme tout le monde. On a des temples, on fait un rituel, rien n'est très différent chez nous. Le temple du feu de Téhéran est très intéressant parce que il n'est pas très ancien. Il est fondé au début du XXe siècle, vers les années 30, dans un quartier au centre de Téhéran qui contient plusieurs édifices et plusieurs fondations zoroastriennes, notamment des écoles. Et ce temple du feu publie chaque année un texte, disons un rapport sur sa consommation de bois. Et donc ça montre qu'effectivement c'est un feu qu'on maintient éveillé, allumé en permanence. Et on n'alimente pas le feu sacré avec n'importe quel bois. C'est un choix spécifique avec des arbres fruitiers, du bois très dense qui se consomme lentement. Et donc on publie chaque année un rapport sur la consommation du feu du temple du feu de Téhéran. Il faut quand même 9 tonnes de bois par an pour que cette flamme continue de brûler en permanence, en effet.
Il faut des gens aussi pour alimenter ce feu.
Oui, le feu n'est pas simplement... c'est pas du tout comme une église, je dirais. C'est un peu comme une petite entreprise. Il faut des gens pour le maintenir, il faut des prêtres, il faut tout un personnel qui va s'occuper, pas seulement du feu, mais aussi des dépendances.
Est-ce qu'on a un clergé?
Alors bien sûr qu'on a un clergé. On a un clergé très important, notamment. Et ce clergé, on les appelle les mages. Ce nom nous provient de la période achéménide, où les magous étaient une sorte de, pas de caste, mais une classe sociale qui avait la spécificité de maintenir les rituels. Donc ils étaient spécialisés dans le maintien du sacré, dans le domaine du sacré. Dès l'époque achéménide, dès l'époque des rois achéménides, on voit que ces mages sont associés au roi, qu'ils sont des conseillers ou des accompagnateurs des rois à différentes époques, parfois aussi ils les contestent. Et en tout cas, on voit bien que c'est ce même mot, c'est cette même institution sacerdotale qui a été transmise jusqu'à nous, puisque c'est le même mot, mobed aujourd'hui en persan, hein, c'est le même mot mage qui s'est transmis.
Oui, les achéménides, excusez-moi, ouais. Les achéménides, c'est vrai qu'on est sur cette première période, hein, période ancienne. Les achéménides, ce sont ceux qui s'opposent aux Grecs, c'est vraiment l'ennemi traditionnel de la Grèce antique. Et il y a des contacts d'ailleurs entre ces
Alors
différentes civilisations
il y a bien sûr des contacts, il y a aussi les textes grecs qui nous parlent. Notamment Hérodote, pour ne citer que lui, mais il y en a d'autres, qui nous parlent des rituels des Perses. Et notamment, Hérodote nous parle du feu en tant que dieu pour les Perses. Il nous parle aussi de l'absence de temple, qui est assez notoire. Et c'est vrai que les temples du feu, on les connaît plutôt pour la période tardo-antique, où on a aussi des vestiges archéologiques qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Hein. On voit que le territoire de l'Iran est vraiment... Le maillage est très dense en matière de temples et donc d'institutions religieuses. Ce clergé qui maintient ces temples du feu est aussi... Il ne faut pas penser que les mages sont simplement des prêtres qui n'ont que le temple du feu ou le maintien du feu pour principal objet. Les prêtres sont aussi des juristes. Ils sont aussi à la tête de l'administration juridique et légale. Ce sont aussi des administrateurs. On les voit notamment à la période sassanide gérer les administrations, financières notamment. Les fondations sacrées, ils gèrent aussi bien sûr tous les aspects quotidiens de la vie des Zoroastriens en matière de religion, mais ce sont surtout des agents de l'administration impériale au service d'un État. Et donc on peut imaginer leur puissance et le rôle qu'ils jouaient aussi à cette période.
Avec ce mot de mage qui évoque énormément, et on imagine pour ces voyageurs venus de l'extérieur découvrir ces temples, le feu qui brûle en continu dans les temples, ces mages, tout ça, c'est un imaginaire qui se construit. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, le zoroastrisme.
Yasnem cha, vahmem cha, ubratim cha, ushtabratim cha, ventabratim cha, frinami. تو آتش پوت راوره مزدا یسنیو وحمیون یسنیو بیا وحمیون ماناهو مشیا کنم اوشتا بیا دهمای نیره یست و باز افرای زاییته اسموز استو برسموز استو گوز استو هاونوز استو دایتیو اسمی بیا دایتیو بایزی بویا دایتیو پیتوی بویا دایتیو پسنی بویا پرنایوش رتری بویا دهمایوش رتری بویا آتش پوت رهوره مزدا سوچه بویا همیان مانه مد سوچه بویا همیان مانه روچه بویه میانمانه و خسته بویه میانمانه
Samra Azernouch, qu'entendons-nous ici? C'est un album consacré aux enregistrements de chants iraniens, enfin en Iran en tout cas, du zoroastrisme. Ici, c'est quelque chose qui parle de culte du feu.
Alors, en effet, il y a deux traditions incantatoires, indienne et iranienne, qui sont légèrement différentes. Ici, on entend une prière au feu qui est récitée par un prêtre. Et cette prière au feu, elle est tirée de l'Avesta. C'est un assemblage de différents textes anciens qui sont centrés sur le feu. Et qui ont été rassemblés pour faire une prière au feu, le Otash Nioyeshn, la prière au feu. Et c'est une prière qui est récitée en différentes occasions. En réalité, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, car le feu est omniprésent dans la vie d'un zoroastrien. Il n'y a pas que le temple. Il y a aussi des rituels privés, des rituels en dehors des temples. Il y a aussi les rituels funéraires, où le feu a évidemment une place importante. Donc, C'est la prière que connaît tout zoroastrien, il l'apprend par cœur. Il y a des livres de prière que les zoroastriens connaissent et apprennent. Alors, des textes sont spécifiques aux rituels officiels qui sont maintenus par les mages, mais il y a aussi des prières de tous les jours, du quotidien. Il y a des rituels quotidiens qu'accomplissent les zoroastriens 5 fois par jour. À des moments rituels, des moments particuliers de la journée où ils récitent les prières principales de leur culte.
Le feu a quelque chose de particulier, on l'entend bien dans cette religion, avec malgré tout une présence du feu. Et si je compare avec le christianisme, il y a les bougies dans l'église, surtout la grande bougie pascale qui reste allumée, la veilleuse, etc. Le feu est présent dans le christianisme par exemple, le judaïsme aussi, il y a du feu. Quelle est la différence de nature?
Oui, bien sûr, la différence majeure, c'est qu'il n'y a pas, on n'a pas un seul feu, on a deux feux. Le feu matériel, le feu physique, mais aussi le dieu du feu. Le feu est avant tout une divinité majeure. Adur, c'est son nom en moyen perse. Et il joue un rôle absolument essentiel et on a même une narration, une mythologie autour de ce feu, autour de sa création, autour de son rôle dans le monde. Et il y a un texte en particulier que je trouve extrêmement amusant parce qu'il nous donne aussi un aspect psychologique de cette personnalité divine du feu. Ce récit place le feu avant la création du monde. Il appartient au monde de la lumière. Il est dans les cieux. Il est dans le monde divin. Et Ahuramazda lui demande, puisque c'est son fils, il lui ordonne d'aller sur la terre pour purifier le monde et pour participer à l'éviction des forces délétères et aux forces des démons. Or, le monde est plongé dans ce que les zoroastriens appellent l'état de mélange, c'est-à-dire le mélange du bon, du bien et du mal. Et le feu est extrêmement réticent à aller sur terre parce qu'il a peur d'être pollué. Il a peur de perdre sa sacralité. Finalement, il faut l'intercession de tous les dieux, les six grands dieux du Panthéon, pour convaincre ce dieu du feu, Adur, à finalement aller sur terre et faire son travail de feu. Il est très récalcitrant, il insiste beaucoup, il se lamente auprès de son père, il refuse d'aller sur terre. Et finalement, après un moment, il cède face à Ahuramazda, il accepte d'aller sur terre, mais à une condition. Et cette condition, dit-il, c'est de s'installer, d'être installé dans une maison au cœur du pays des Iraniens. Ce récit étiologique nous explique pourquoi le feu a choisi l'Iran comme terre d'élection, comme lieu où il s'est installé, et pourquoi l'Iran est devenu la terre du feu et la terre du culte du feu. Cette histoire nous dit aussi que le feu est fragile, il est vulnérable et qu'il lui faut une maison, il lui faut un temple pour le protéger. Il faut le nourrir en permanence, il faut le nourrir du bois sec en particulier. Il y a un traitement particulier pour que le feu ne crée pas de la fumée. Du bois absolument sec, mais aussi de l'encens et aussi des libations pour le maintenir en vie et en toute vigueur.
Cette réflexion sur le feu qu'il faut nourrir, on la retrouve aussi chez les Grecs. Et dans ce moment-là, le mieux est de laisser la parole à Jean-Pierre Vernant.
Alors, ce feu caché que Prométhée a volé est en même temps quoi, ce feu prométhéen, par rapport au feu de Zeus, foudre? C'est un feu qui est comme les hommes, c'est un feu mortel, c'est un feu qui a besoin de manger continuellement. Parce que si vous ne lui donnez pas continuellement du bois ou un aliment, il s'éteint. Et c'est un feu en même temps qui est un feu engendré. Parce que le feu qu'a volé Prométhée, c'est ce que le texte appelle un sperma puros, une semence de feu. Et en effet, nous savons que le problème est d'arriver à garder sous la cendre toujours une semence de feu, un tison, une braise encore vivante, pour pouvoir rallumer. Donc feu mortel, feu affamé, feu engendré. Alors que les Zeus a son feu éternel, on a donc de nouveau une espèce de disjonction entre le feu humain, avec ses caractères ambigus, mortel, affamé, engendré, et puis le feu permanent de Zeus, infatigable, comme disent les textes, voilà.
Jean-Pierre Vernant, l'historien en 1997 sur France Culture, Samra Azarnouch, ici on a quelque chose d'intéressant, dans, pas la comparaison, mais c'est toujours bon de mettre en relation ces différents mythes, ce feu divin et ce feu entretenu, nourri par les humains.
Il y a une autre comparaison qui est très importante et intéressante ici avec le zoroastrisme, c'est que le feu a différent, dans le zoroastrisme, a une hiérarchie. Il y a trois feux différents, avec un feu qui doit brûler à toute flamme, qui est le feu le plus sacré, qui est placé dans des centres consacrés d'une manière très particulière avec un rituel complexe. Mais on a aussi des feux moins importants qui peuvent rester allumés ou disons, on peut maintenir les braises ardentes sous une couche de cendre et on peut les réallumer occasionnellement au moment du rituel ou selon les besoins. Et c'est vrai qu'on oublie l'importance des cendres qui est en lien direct avec le maintien du feu. Les cendres sont aussi quelque part, surtout les cendres du feu sacré, ont quelque chose de sacré elles-mêmes. Elles sont même réutilisées par les zoroastriens dans certains rituels de purification. On a retrouvé au nord de l'Iran, à la frontière avec le Turkménistan, un temple du feu de l'époque parthe, qui s'est maintenu à l'époque sassanide, où on voit un amas de cendres très blanches, très pures, dans un four qui était dédié. Donc les cendres sont aussi conservées, peut-être pour maintenir les braises, ou alors pour un usage rituel. Il y a aussi un rituel dans l'Iran d'aujourd'hui, dans la région de Yazd, qui est traditionnellement une région liée au zoroastrisme, où lorsque les zoroastriens font des cérémonies privées chez eux, notamment pour cuire de la nourriture qui va servir à une fête religieuse, le feu qui a servi à cela ne va pas être laissé refroidir ou mourir. On va le porter dans le temple du feu de la ville. On va le mettre dans un endroit spécifique pour qu'il soit finalement... qu'il réintègre le feu sacré, qu'il puisse mourir paisiblement auprès du feu sacré de la ville.
On a le feu du temple, ce feu sacré. On entend bien que le feu est présent dans les différents rituels. Il est présent aussi dans la vie des gens, à différents moments de leur existence, j'imagine, lors des alliances, au moment du décès.
Oui, évidemment, on allume des feux, même des bougies à toutes les occasions. Alors, c'est un peu paradoxal parce que le feu étant un dieu, il ne doit pas être pollué. Il doit garder son aspect entièrement pur et purifié. Et lorsque les prêtres s'approchent du feu, ils revêtent ce qu'on appelle le padam, c'est-à-dire un voile autour de la bouche qui les empêche de rentrer en contact direct avec le feu. Mais bon, alors les zoroastriens qui ne sont pas des prêtres peuvent souffler des bougies, ce qui serait un acte tout à fait inconvenant de la part d'un prêtre. Mais quoi qu'il en soit, oui, les bougies sont partout. Pour ce qui est des rituels funéraires qui occupent une grande place dans le zoroastrisme, au moment du décès du mort, on allume un feu à bonne distance du mort. Donc il faut absolument la présence du feu et de la lumière dans l'environnement du mort. Et puis surtout, les rituels funéraires aussi sont conduits par des prêtres autour d'un feu également. Les rituels funéraires sont peut-être l'un des aspects les plus spectaculaires dans le zoroastrisme. Ça a peut-être aussi suscité une sorte de fascination morbide parce que on en parle depuis. Hérodote nous parle de des cultes funéraires des Perses, en particulier des mages, puisqu'il évoque le rite de du décharnement des cadavres.
C'est-à-dire ?
Le décharnement du cadavre, c'est-à-dire que, étant donné que pas seulement le feu, mais tous les éléments de la création étant purs, notamment la terre, on n'a pas le droit d'ensevelir les morts, on n'a pas le droit de les mettre dans l'eau, on n'a pas le droit de les brûler. La seule solution qui reste, c'est trouver une alternative pour se débarrasser des corps. Cette alternative, c'est de les recycler par le biais des animaux carnassiers qui vont décharner les chairs, qui vont décharner les cadavres et endiguer la pollution générée par la démone de la mort dans le corps des décédés. C'est ce qui a donné lieu à ce qu'on connaît peut-être par le tourisme aussi en Iran, ce sont les tours du silence. Les tours du silence qui sont donc des édifices circulaires que l'on voit en Inde mais aussi en Iran, et qui la pratique n'a plus cours en Iran. Elle a été interdite autour des années 50. Elle a dû s'arrêter vers les années 70, peut-être un peu avant, où l'on déposait, selon des règles strictes, un cadavre au sommet de cette enceinte circulaire dans des espaces organisés, où ils étaient abandonnés, exposés au soleil pour se dessécher, mais aussi aux vautours et à d'autres oiseaux pour être décharnés. Une fois que les os étaient secs, on les récupérait soit pour les mettre dans des ossuaires à époque ancienne, soit pour les jeter dans le puits central qui était au centre de l'édifice. Aujourd'hui en Inde, cette pratique existe toujours. À Bombay notamment, les tours du silence continuent à être utilisés malgré les problèmes que ça pose, les problèmes d'hygiène que ça pose, malgré le fait que les oiseaux qui étaient chargés de décharner les corps sont légèrement récalcitrants. les vautours ont une épizoutie, ils ne sont plus capables de faire leur travail de décharnement. Et donc, les zoroastriens d'Inde, donc les Parsis, cherchent des solutions alternatives pour dessécher les corps, comme des panneaux solaires.
Ah oui.
Je crois que c'est la pratique qui est contestée, évidemment, par les mages rigoristes, par les prêtres conservateurs. Mais bon, voilà, on s'adapte. Donc, on utilise d'autres moyens pour se débarrasser du corps des morts.
Toujours de l'étonnement, bien sûr, à la découverte d'autres pratiques. Vous avez cité Hérodote. Je vous propose Pausanias.
J'ai vu en Lydie un autre prodige d'une espèce différente, mais qui tient également à l'art des mages. Il y a chez les Lydiens, surnommés les Perses, deux temples. Dans chacun de ces temples est une chapelle, et dans cette chapelle, un autel, sur lequel il y a de la cendre qui ne ressemble point par sa couleur à la cendre ordinaire. Un mage entre dans cette chapelle. Après avoir arrangé du bois sec sur l'autel et mis sa tiare sur la tête, il invoque je ne sais quel dieu par des prières en un langage barbare, inintelligible pour les Grecs, et qu'il lit dans un livre. Alors, le bois s'allume de lui-même sans feu et jette une flamme très vive.
Max James qui nous lisait cet extrait de Pausanias, auteur grec du 2e siècle après Jésus-Christ, avec des prodiges. Alors associé au mot mage, le feu qui s'allume tout seul et une flamme vive, c'est formidable.
Oui, alors c'est pas une combustion spontanée, hein. C'est ce que je vous décrivais précédemment, c'est-à-dire des braises qui sont sous la cendre et qui s'allument lorsqu'on apporte du bois à brûler. Ce qui est intéressant dans ce témoignage de Pausanias, c'est justement l'importance qu'il accorde aux cendres et à leur couleur, ce qui a rejoint exactement les preuves archéologiques que l'on connaît pour la même époque, mais en Iran. Et puis, il y a aussi l'attirail du mage, hein, qui est obligé de se vêtir d'une manière particulière, de revêtir la tiare, donc qui probablement aussi, cette coiffe qui devait aussi recouvrir sa bouche et son nez. Et aussi le fait que donc il y a une chambre dédiée au feu, une cella au centre du temple du feu. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que on nous montre bien que la chambre du feu n'est pas l'élément central ouverte. Ce n'est pas une salle de congrégation, ce n'est pas une salle de rassemblement. C'est une chambre qui est dédiée au feu et qui ne requiert que la présence des prêtres pour l'entretenir. C'est pas quelque chose, c'est pas, les gens n'assistent pas à ça. Ils ne sont pas là. Ils peuvent le voir aujourd'hui à travers des vitres, mais ce n'est pas une salle de rassemblement ou d'un culte collectif, pas du tout.
Vous nous avez expliqué, Samra Azarnouch, que le zoroastrisme devient religion d'État au 3e siècle après Jésus-Christ avec cette nouvelle dynastie des Sassanides. Mmh. Et d'ailleurs, utilisation politique hein, du zoroastrisme pour unifier cet empire-là. On peut parler d'un véritable succès, c'est-à-dire que les Sassanides choisissent cette religion-là au sens où ils se l'accaparent comme une identité nouvelle ou alors parce qu'ils constatent que le zoroastrisme est déjà la religion la plus répandue.
Non, ils sont déjà zoroastriens eux-mêmes. C'est leur religion familiale et dynastique qu'ils vont imposer. Mais ça signifie aussi que la religion était suffisamment répandue pour qu'elle reçoive justement une réponse positive. Ce qui est intéressant avec les Sassanides, c'est que ce message politique, il apparaît d'emblée. Dès le début du IIIe siècle, lorsque le fondateur réussit à repousser ses ennemis partent et à monter en puissance. Lorsqu'il fait frapper des monnaies, il les frappe bien sûr à son effigie, et au revers des monnaies, il fait frapper l'image d'un autel du feu avec des flammes qui repose sur un pied, l'image du feu, c'est l'image qu'il choisit de transmettre à travers l'Empire comme le symbole de sa prise de possession. Donc c'est un symbole extrêmement fort. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette contrée mythique des Iraniens dans l'Avesta. Eh bien, le roi perse Sassanide va choisir ce mot-là pour désigner son empire. Iran-Shahr, le royaume des Iraniens, c'est le nom, c'est la première fois que la Perse se dote d'un nom impérial. Et puis enfin, il va instaurer, donner une grande importance à la présence des mages en tant qu'administrateurs, en tant que conseillers de l'Empire. Il y a une véritable hiérarchie sacerdotale qui se crée avec des prêtres qui sont conseillers des rois et puis aussi des strates moins importantes, plus pratiques, je dirais, de la présence des mages dans l'administration sassanide.
Et puis nous l'avons dit, il y a la mise à l'écrit de tous ces textes.
Au sein de l'Assemblée divine, le feu se lamenta ainsi. Je ne devrais pas être ici, sur la terre. Je devrais aller jusqu'au ciel. Et de là-bas, j'illuminerai la terre et ses 7 continents, comme le font la lune, le soleil et les étoiles établies par Dieu quand ils éclairent le monde de leur propre éclat. Ahura Mazda reconnaît que la plainte du feu est légitime. C'est pourquoi il est nécessaire, dans ce monde, de satisfaire le feu et de lui prodiguer tous les soins. Et le feu continua. S'il n'est pas possible d'accéder à mes demandes, alors, ô Ahura Mazda, établis-moi au cœur du pays des Iraniens. Prends-moi, moi qui suis le feu bienfaisant. Alors Ahura Mazda, après avoir frotté le feu, l'installa dans une maison sur terre afin qu'elle soit un lieu de rassemblement.
Le feu qui s'adresse à son père, à Ahura Mazda, une lecture de Mathieu Copal dans le cours de l'histoire sur France Culture, avec ce texte, Samra Zarnouch, que vous nous avez déjà raconté. Non, mais on le voit bien ici avec cette mise par écrit d'un texte, mais cette codification donc de tous ces textes donne un corpus qui devient figé.
Alors, la mise par écrit de l'Avesta ne signifie pas que le texte oral ne continue pas sa propre vie. Il y a même une confrontation entre l'oralité et l'écriture. C'est-à-dire que, comme dans le judaïsme, les zoroastriens considèrent que la mémoire des prêtres est le support le plus approprié à recevoir le texte sacré. C'est l'écriture qui pose problème, c'est la mise par écrit qui est vulnérable et qui est altérable. Ce n'est pas le cas de la mémoire des prêtres qui sont entraînés à mémoriser, à réciter le texte avec toutes les règles de la prononciation et de la liturgie. Il y a des règles strictes pour apprendre à mémoriser un texte aussi long. En plus de cette mise par écrit de l'Avesta, ce qui apparaît aussi à l'époque sassanide, mais qui devait quand même être aussi antérieure, mais en tout cas c'est à la période sassanide qu'elle se codifie et qu'elle devient très très large, c'est l'interprétation du texte de l'Avesta et la création d'une nouvelle littérature en dépendance avec l'Avesta. Et cette littérature, on l'appelle le Zand, la connaissance. Ce sont des textes qui sont en langue moyen perse, donc la langue de l'Empire sassanide. Ces textes reposent sur donc des traductions de l'Avesta en moyen perse, l'Avesta, l'Avestique étant une langue morte, donc ce sont des gens qui ont une connaissance, inégale de ce texte ancestral, mais bon, ils considèrent qu'ils le comprennent. En tout cas, ils vont appliquer un véritable travail de philologue, de linguiste, d'exégète, d'herméneute, pour essayer d'en tirer le plus possible. Donc on a une vaste littérature d'exégèse, de commentaires qui vont se tisser par strates successives autour de la traduction de l'Avesta. On va en tirer des textes de cosmogonie qui vont expliquer la création du monde. On va en tirer une apocalyptique très complexe. Aussi un discours autour de l'eschatologie, le devenir de l'âme, mais aussi du monde à la fin de la chronologie. On en tire aussi, bien sûr, une littérature légale. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une codification de la loi extrêmement stricte à cette époque qui émane aussi de l'Avesta. Donc, le texte de l'Avesta et de sa liturgie, certes, mais on a aussi par ailleurs une vaste littérature qui nous a été transmise de manière très incomplète. Il faut dire que l'Iran et l'écriture, de toute manière, est fâché avec l'écrit. Disons que ce n'est pas comparable avec la Grèce ou l'Inde, où on a énormément de textes. L'Iran a très peu de textes. Nos sources sont vraiment très très rares. Elles sont aussi écrites dans des langues extrêmement difficiles. Des parties de l'Avesta, comme les Gathas, on n'est pas sûr que l'on les comprenne correctement aujourd'hui. En tout cas, les philologues ne sont pas certains. C'est encore un travail en cours. Il en va de même pour la littérature exégétique en moyen perse. Ce ne sont pas des textes qu'on lit comme le journal. D'abord, l'écriture est une écriture extrêmement difficile à déchiffrer. Et puis, ben voilà, nous ne sommes pas des théologiens zoroastriens. Nous devons vraiment réfléchir et travailler assez longuement et dans des conditions pas toujours faciles, je dois dire, pour essayer de comprendre ce que voulaient dire ces textes vénérables.
Que se passe-t-il avec l'arrivée de l'islam ? Le feu ne s'éteint pas ?
Alors, le feu s'est éteint à différentes occasions, effectivement. L'arrivée de l'islam a été une conséquence assez... a créé une situation ambiguë pour les Zoroastriens. D'abord, on ne peut pas parler d'un état général. Chaque ville, chaque contrée s'est comportée différemment avec ce qu'on peut appeler des envahisseurs ou face à la conquête. De manière générale, les Zoroastriens ont eu d'abord l'état de protégé, de zimmi en arabe, c'est-à-dire que en tant que minorité religieuse, ils ont joui d'une certaine protection en échange de l'impôt de capitation, la jizya. Donc en payant un impôt, on est protégé et on maintient son existence. Cela dit, dans le contexte des conquêtes, évidemment, des temples du fond ont été éteints, des autodafés ont eu lieu, des textes ont certainement été perdus. Un autre aspect aussi, je pense aussi à la perte de la littérature, c'est-à-dire que dans l'âge d'or de ces débuts de l'islam qu'on appelle l'époque abbasside, un certain nombre de textes, pas forcément religieux, mais plutôt des textes émanant du protocole impérial et de l'histoire impériale de l'Iran perse ont été, et la littérature également, a été traduit en arabe. Et une fois que ces équivalents arabes existaient, petit à petit, ces textes qui étaient dans une langue qu'on commençait à oublier, c'est-à-dire le moyen perse, sont tombés dans l'oubli et ont été perdus. Une autre partie de cette littérature a traversé les temps par le persan classique, à travers des traductions. Mais voilà, il y a eu une certaine... l'islam a contribué à la perte de la littérature zoroastrienne, ça il en est certain.
Et notamment des sources, c'est ce qui est la base du travail de l'historienne, de l'historien, avec cette présence toujours aujourd'hui du zoroastrisme en Iran. Vous l'avez évoqué, le temple à Téhéran et d'autres encore.
Le temple à Téhéran, des temples à Yazd aussi, à Kerman, sans parler des nombreux temples de l'Inde, notamment de la région du Gujarat, notamment à Bombay, Nawsari et Surat, qui sont les trois grandes villes du zoroastrisme en Inde. Oui, l'Iran d'aujourd'hui les Zoroastriens sont une minorité, certes, qui sont tolérés, sont surveillés. On ne peut pas dire qu'ils ont une totale liberté. Ils ont une liberté de culte, certes, ils ont des droits civiques. Mais on ne peut pas dire qu'ils vivent dans une harmonie totale, qu'ils vivent en tout cas leur religion dans une harmonie totale en tant que minorité religieuse.
Des précautions dans vos propos, Samra Zarnouche, et nous comprenons très bien, avec pour terminer cette émission, une évocation étonnante. Through the sorrow, all through our splendor, don't take offense at my innuendo. Alors celui qui met le feu ici, c'est Freddie Mercury du groupe Queen. Pourquoi Queen ?
Parce que Freddie Mercury était un zoroastrien qui s'ignorait. Il était en rejet avec ses ancêtres zoroastriens parsis. Freddie Mercury s'appelle en réalité Farrokh Bulsara. Il vient d'une famille sacerdotale de Zanzibar. Et peu de gens le savent. En réalité, il est en rejet avec sa religion. Mais disons que cette chanson qui se diffuse actuellement est l'une des chansons les plus religieuses que Freddie Mercury a écrit. Et elle illustre assez bien le zoroastrisme qui trouve finalement toujours un compromis entre le conservatisme et le modernisme. C'est une religion qui a survécu à 3000 ans d'histoire. Donc on peut dire finalement que the show must go on.
Bravo, magnifique conclusion, Samra Zarnouche, à la recherche de la continuité iranienne, de cette tradition zoroastrienne à la mystique musulmane. C'est notamment un de vos ouvrages, mais on retrouve tout sur le site internet lecoursdehistoirefranceculture.fr. Merci vivement d'être venu nous voir et de nous parler du zoroastrisme. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Comment peut-on porter le voile ? L'historienne Nicole Pellegrin a publié récemment une étude qui prend en compte les différentes sortes de voiles apparues au cours du temps pour cacher, agrémenter ou spécifier le corps des femmes sans exclure totalement celui des hommes. En s'inscrivant dans la problématique d'une histoire du genre, c'est-à-dire une histoire des relations entre hommes et femmes, elle met en lumière un certain nombre de paradoxes. Le premier tient au fait que les textes et les images qui alimentent la longue histoire du voile ont été le plus souvent produits par des hommes, alors même que l'histoire du voile masculin a été refoulée de notre mémoire collective. Pourtant, à travers les âges, il semble que le voile ait joué le même rôle pour les deux sexes, utilisé pour occulter, mais aussi pour exhiber. Sa principale fonction a toujours été de définir l'identité de celui ou de celle qui le porte. Dans le passé, les voiles masculins ont été très répandus. Ils pouvaient être pénitentiels, comme en témoigne la cagoule des pénitents, ou monastiques, mais ils remplissaient aussi une fonction sociale, comme le montre l'exemple du capuchon porté par les paysans bretons au début du XIXe siècle. Dans certains cas, couvrir sa tête pouvait être une façon de se protéger des intempéries. Mais dans les sociétés dominées par la culture des apparences, l'usage du voile fonctionnait comme un moyen symbolique permettant de mettre les autres à distance en leur signifiant leur rang. En Europe, c'est l'Église chrétienne qui a joué le rôle le plus important dans le voilement des femmes depuis le haut Moyen-Âge. Ce morceau de tissu a été largement utilisé dans les représentations de la Vierge, à une époque où la transmission des messages religieux passait surtout par des formes figuratives. La scénarisation de la Vierge voilée, qui s'est imposée dans la peinture occidentale, explique l'importance qu'a prise le voile dans la construction de l'identité des religieuses. Ce morceau de tissu symbolise en effet l'union conjugale avec Dieu et l'appartenance à une communauté spirituelle particulière. Même chez les laïcs, le voile est devenu un marqueur de genre, comme le prouvent les cérémonies de la communion solennelle ou du mariage chrétien. Mais le rôle central qu'a joué la religion dans le voilement des femmes n'a pas empêché la multiplication des voiles profanes, au moins jusqu'aux années 1930. Dans les milieux populaires, la manière la plus fréquente de porter le voile consistait, pour les femmes, à se couvrir la tête avec des mouchoirs de tête, qu'on appelle aujourd'hui les fichus, les foulards ou les turbans. Si le voile a pu symboliser les croyances religieuses, fonctionner comme un attribut de genre ou de classe, il a été aussi un marqueur géographique essentiel, comme le montre l'analyse des différents costumes régionaux au fil des siècles. Nicole Pellegrin insiste sur le fait que les premières critiques du voile obéissaient à des considérations d'ordre esthétique bien plus que politique. En affirmant que le voile n'est pas forcément féminin, religieux et oriental, elle nous rappelle que la signification d'un symbole dépend toujours des interprétations qui en sont données par le petit monde des privilégiés ayant accès au discours public.
Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Max James, avec aujourd'hui à la technique Noé Chaban, émission tout en feu par Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Jeanne Coppalili, Corna R, Tom Undestock, Mathieu Copal et Maïwen Guizhou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.